We praise you, Lord. We believe you, Lord. Nous te demandons, Père, dans cette église, une révélation nouvelle de la grandeur de Jésus, de la beauté de Jésus, afin que nous fassions des choix qui correspondent au désir du Père. Nous te remercions encore, Père, pour les choses que tu as établies, pour chaque vie. My God, Rahesete, Helahase, Helamanse, j'invite chacun aujourd'hui à saisir sa destinée en Christ, ce que Dieu a établi concernant sa vie avant la fondation du monde, ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour dire, Seigneur, ce que toi, tu as préparé, je saisis. Et je vais marcher dans le plein accomplissement de ta volonté. Je vais entrer dans le chemin où toi, tu m'as placé. Je vais choisir la destinée que toi, tu m'as donnée. Je choisis ta volonté, je choisis tes desseins, je choisis tes projets, je choisis ta voie, je choisis d'être un disciple de Jésus dans cette génération, je choisis de vivre une vie qui glorifie Jésus dans cette génération, je choisis d'annoncer l'évangile, je choisis de prêcher l'évangile, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, je vais être de ceux qui peuplent le royaume de Dieu, je vais être de ceux d'Akense, que les gens pourront regarder dans l'éternité et dire, c'est parce que tu m'as parlé. C'est pas à cause de ce que tu as fait. C'est à cause de ce que tu as mis en place. C'est à cause de ce que tu as orchestré. C'est à cause de ce que Dieu a fait à travers toi que je me retrouve ici aujourd'hui. My God, we will be rich in eternity. Nous serons riches dans l'éternité. Ramaha, riche de vie, riche d'âme, riche dans l'éternité. Ramaha Zete. Oh Père, nous te remercions. Nous te remercions. Nous ne levons pas devant toi des mains vides, ni des mains impures, ni des cœurs vides, ni des cœurs impurs. Nous levons devant toi, Père, des cœurs qui sont remplis de reconnaissance, des cœurs qui désirent ta voix et ta voix seule. Father, we praise you. Rahateke hizai, lamonotoke, hazamanteke, hazukete, hazome. Father, we thank you. Raninte haitoti, harosoko. Nous te remercions de ce que chaque homme et chaque femme qui est volontaire dans cette église passe à une étape supérieure, passe à une nouvelle dimension dans l'esprit, une nouvelle dimension dans la relation avec Dieu, dans la révélation de la parole, dans l'opération de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans la sainteté, dans la droiture, dans l'engagement, dans le sérieux, au nom de Jésus. Et à chaque heure, tu révèles ce que tu veux révéler. Tu montres ce que tu veux montrer. Father, we thank you. Father, we thank you. Parce que tu fais de nous encore, non pas simplement un groupe disparate de personnes, c'est bien qui avance en ordre dispersé. Mais encore, Samanaké, avec le même cœur pour les choses de Dieu. Sabakassé, non pas des gens qui se réunissent le dimanche pour être bénis, mais des gens qui forment une famille, décidés à gagner cette nation pour Jésus. Ramahassé, teke. Hanestakahassé, teke, hassai. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Chaque personne qui est ici aujourd'hui, Père, est là à cause de ta bienveillance. Ton amour qui ne change jamais. Ta fidélité qui est constante. Ton pardon qui est inchangeable. Et Père, nous te demandons de nous parler ce matin. De parler à chaque cœur. Et d'amener la compréhension des choses qui sont sur ton cœur. Oh Père, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et que nos cœurs saisissent ce que ton cœur ressent. Et qu'à l'intérieur de nous vibre la même passion que tu as. Et que l'amour de la vérité nous habite et ne nous quitte jamais. Que l'amour de la droiture nous habite et ne nous quitte jamais. Père, nous te demandons, comme tu as fait pour tes apôtres, au milieu d'une génération hostile et qui vivait dans le compromis, que tu nous donnes de parler avec hardiesse, Amen. Que tu nous donnes de croire avec hardiesse, Amen. Que tu nous donnes de vivre avec hardiesse, Amen. Que tu nous donnes en franc d'airain, yes. Pour tenir tête à notre génération. Amen. Et pour faire face aux tentations, faire face au mépris, faire face à tout tout ce que notre génération pourrait envoyer vers nous, pour nous amener à nous éloigner de la voie de la droiture. Père, nous te remercions de ce que l'amour de la vérité va nous être communiqué en profondeur ce matin, de telle sorte que nous serons indéfectibles dans notre allégeance envers toi et envers la pureté, la droiture et la vérité. Quel que soit ce que nous voyons dans le monde, Père, nous te demandons par ton esprit d'illuminer les yeux de nos cœurs ce matin. Que ta parole pénètre au plus profond de notre être et nous amène à une séparation radicale, radicale avec tout ce qui n'est pas à ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Je vais vous demander de vous asseoir et de regarder avec moi dans Matthieu chapitre 4. Je vais vous apporter une parole prophétique ce matin. Cela fait un certain temps que Dieu me travaille par rapport à ces choses, mais il y a un temps pour dire des choses et il y a un temps pour ne rien dire. Alléluia. Samarinkeseti. Je voudrais que vous regardiez dans Matthieu 4. Samarochtekerebasota. Nous vivons dans un monde, dans une génération où la vérité est en péril. Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Combien de gens savent qu'il s'agit là de quelque chose de noble, d'indispensable? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Combien de gens le savent? De quelque chose d'indispensable, quelque chose de noble, quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose qui méritait toute son attention, toute sa dévotion, et qui nécessitait une vie au-dessus de tout soupçon. Et qui nécessitait aussi une connaissance profonde du cœur du Père. La parole de Dieu nous dit qu'après son baptême, Jésus a été conduit dans le désert pour être testé. Et dans Matthieu 4, est-ce que vous y êtes? Au verset 1, et si vous n'y êtes pas, écoutez attentivement. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Le tentateur s'étant approché, il ne s'est pas approché le premier jour. Il ne s'est pas approché le deuxième jour. Il ne s'est pas approché quand tout allait bien. Il ne s'est pas approché quand Jésus venait d'être baptisé et que la gloire de Dieu s'est révélée sur lui. Il ne s'est pas approché au moment où Jean l'identifiait comme l'agneau de Dieu. Il ne s'est pas approché le 30e jour, il ne devait pas avoir assez faim encore. Il s'est approché le 40e jour. Il s'est approché lorsqu'il avait faim, pas avant. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, my God, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Que demande le peuple? Les royaumes du monde et leur gloire. N'est-ce pas ce que nous voulons? Gagner les royaumes du monde à Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Gagner les royaumes du monde pour le Père. Les récupérer de la main du diable. Et maintenant, on lui fait une offre alléchante. On lui a déjà fait une offre personnelle. Vous avez compris? Personnelle, mes besoins personnels. Pour que mes besoins personnels soient pourvus. Fais quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Deuxième chose, il amène du haut du temple. Maintenant, il tente ta foi en Dieu réellement. Si tu as foi en Dieu. La troisième chose, il le tente avec sa destinée. au royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En d'autres termes, il y a des raccourcis possibles. Tu peux obtenir ce que tu es venu obtenir. Tu peux obtenir ce dont tu as besoin pour ta vie en le faisant à ma manière. Tu peux obtenir ce que tu es venu obtenir sur la terre, les royaumes de ce monde. Et l'Église est là pour obtenir les royaumes de ce monde. La parole de Dieu dit que les royaumes de ce monde seront les royaumes de notre Dieu. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, notre but, c'est d'obtenir les hommes pour Jésus, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous le faisons? Et ça aurait été tellement simple. Et nous aurions pu dire, nous, mais oui, il suffit juste de l'adorer un peu et on obtient tous les royaumes du monde et ce serait fini. Je te donnerai toutes ces choses et si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Vous devriez apprendre à dire cela. Quand il vient vous présenter une image alléchante de ce que vous allez obtenir si vous faites un peu de compromis. Retire-toi, Satan. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Jésus lui dit, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Glory to God. Il y a des gens que le diable ne laisse jamais. Parce que dès que vous l'adorez, il va recommencer encore et ne s'en ira pas. Vous pensez, je vais l'adorer, je vais céder en cette chose et après ça va être bien. Non, non, non. Dès que vous cédez un peu, vous allez céder encore, vous allez céder encore et céder encore et céder encore et céder et céder et céder jusqu'à ce que vous cédiez tout. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est tout d'abord le fait que lorsque le diable est venu tenter Jésus, comme je vous ai dit, il a tenté avec ses besoins personnels. Amener ses besoins personnels à l'amener en dehors de la parole de Dieu. Ensuite, il a tenté avec sa destinée. Ce qu'il est venu faire sur la terre. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Si tu n'utilises pas le moyen difficile, si tu le fais différemment. Parce que si tu le fais à la manière de Dieu, c'est compliqué, les gens n'aiment pas. C'est dur, ils vont te persécuter, ils vont te pourchasser, ils vont mal parler de toi, ils vont te maltraiter et après ils vont te crucifier. Est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Tu as vraiment besoin de tout ça? Il suffit de m'adorer. On peut faire les choses à ma manière et après c'est bon, tu as tous les royaumes de ce monde. La même chose à laquelle Jésus a fait face, nous faisons face chaque jour. L'Église y fait face. Individuellement, nous y faisons face. En tant qu'Église, nous y faisons face. Et aujourd'hui, la vérité est de plus en plus attaquée. Au sein de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Il est important que les chrétiens aient des yeux ouverts pour comprendre les choses qui se passent dans leur vie. Et donc faire les bons choix. Et pour comprendre ce qui se passe dans la société. Pour comprendre les desseins de Dieu. Comprendre les défis qui sont face à l'Église. Et savoir comment réagir. Parce que par manque de connaissances, mon peuple périt. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent comme s'ils ne comprenaient rien. Rien des temps dans lesquels nous vivons. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce dans la version du semeur. Dans la version que nous avons lue, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, il est question d'un certain nombre de choses. Nous avons déjà vu ce passage longuement dans cette église. La question de la parole de Dieu, la question de toute chose qui provient de Dieu. Tout ce qui provient de Dieu. C'est ça ce qui soutient la vie humaine. Ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est la pensée de Dieu. Ce qui est la parole de Dieu. Ce qui est le dessein de Dieu. Ce qui est orchestré par Dieu. Ce qui est amené à l'existence par Dieu. Ce qui est agréable à Dieu. Ce qui correspond à la nature de Dieu. Ce qui rend gloire à Dieu. C'est cela la substance de la vie d'un être humain. Mais alors, il y a autre chose qui peut paraître important, nécessaire, indispensable. Et Jésus nous dit, toutes ces choses n'ont aucune valeur. Non. Qu'est-ce qui habite mes pensées? Qu'est-ce qui habite mes paroles? Qu'est-ce qui conditionne mes choix? La vérité seule, en Christ. Mais de plus en plus, la vérité est attaquée. Il y a une phrase dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui par ailleurs a été citée par Martin Luther King. Et cette phrase a été, selon l'histoire, a été écrite par Thomas Jefferson, qui était le rédacteur principal de la Déclaration d'indépendance. Et cette phrase commence ainsi. Nous tenons ces vérités comme évidentes. Nous tenons ces vérités comme évidentes. Et commence à énumérer ces vérités qui sont évidentes. Que les hommes ont été créés égaux. Ensuite, il parle de leur créateur et toute une série de choses. Ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est le fait qu'il y a des vérités qui doivent être évidentes. Des vérités qui doivent être non négociables. Et lorsque ces vérités sont évidentes et non négociables, elles influent sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous faisons. La difficulté aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont décidé, sous la pression du monde, que tout était négociable. Tout était négociable. Il y a des vérités qui sont non négociables. Parce que sinon, nous passerons nos vies à chanter Alléluia et nous finirons en enfer. Il y a des vérités de l'Évangile qui sont non négociables. Dites non négociables.
Non négociables.
Et aujourd'hui, il y a la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur. La pression à l'extérieur pour que nous entrions dans le compromis. La pression à l'extérieur pour que nous prêchions un autre évangile. Un évangile plus acceptable à notre génération. Un évangile qui fait plaisir à ceux qui ont décidé que Dieu ne fait pas partie de leur agenda et ils vont décider comment tout le monde doit penser. Et beaucoup de chrétiens se laissent séduire. Donc nous commençons à négocier ce qui est non négociable. Et nous voulons gagner les gens à Jésus. Et donc, il y a une nouvelle vague qui consiste à être, comme on dit en anglais, relevant. Nous devons proposer un évangile qui est pertinent. Une façon de faire l'église qui est pertinente. Quelque chose qui donne envie aux gens qui ne connaissent pas Jésus de venir à Jésus. Et nous vidons l'évangile de son contenu pour attirer les gens à Jésus. Mais nous l'attirons à quoi? Nous les attirons à quoi finalement? À 1h le dimanche matin pour faire un peu de rap, un peu de rock et rentrer chez eux en leur donnant la fausse illusion qu'ils ont adoré Dieu. La fausse illusion qu'ils ont suivi Dieu. Parce que l'Église a décidé qu'elle veut être aimée. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, et je vous le cite dans Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas attirer les gens à un évangile que nous avons vidé de son contenu. Nous ne pouvons pas dire « je suis à Jésus », mais il ne faut absolument pas que les gens qui ne sont pas à Jésus ne trouvent rien qui les dérange chez moi. Une des choses que Dieu a réglées dans ma vie, quand j'étais jeune chrétienne, c'est le désir de ne pas être différent des gens qui m'entouraient, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Si vous êtes jeune chrétien aujourd'hui, décidez que vous allez épouser votre différence. Parce que cette différence, c'est la marque que Dieu vous a touché.
Amen.
S'il n'y a aucune différence entre vous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que vous non plus, vous ne connaissez pas Dieu. S'il n'y a aucune différence dans ce que vous croyez, aucune différence dans ce que vous pensez, dans votre manière de vivre, dans vos choix de vie. Et nous allons en parler dans les semaines à venir. Parce qu'il est fondamental. Nous sommes l'évangile que les gens lisent. Nous sommes l'évangile que les gens lisent. Les gens qui m'annonçaient l'évangile avant de venir à Christ, que je détestais, dont je me moquais, je les bénis aujourd'hui.
Amen.
Les gens vous béniront au nom de Jésus.
Amen.
Parce que vous n'allez pas faire le compromis. Et dans cette église, nous n'allons pas faire de compromis. Il y a des fondamentaux de l'évangile. Et si ces fondamentaux ne sont pas en place, nous ne pouvons pas dire que nous annonçons Jésus. Nous annonçons un Dieu que nous avons façonné à notre image, à notre pauvre image, ou à l'image du monde que nous voulons attirer. Et à force de vouloir faire en sorte que nous soyons acceptables aux gens du monde pour qu'ils puissent trouver notre évangile agréable, nous l'avons vidé de son contenu, nous sommes devenus comme eux, et finalement ils nous méprisent parce qu'ils ne voient pas de différence entre nous. À force de vouloir être acceptés, de vouloir être aimés. Et c'est difficile de comprendre d'où ça vient tout cela. Parce que lorsque nous regardons les débuts de notre foi, ceux qui nous ont précédés, ils n'étaient pas forcément appréciés des hommes, mais ils étaient appréciés de Dieu. Et le fait d'être apprécié de Dieu a radicalement changé leur vie. La parole de Dieu nous dit que si nous souffrons, il ne faut pas que ce soit parce que nous avons mauvais caractère. Mais que ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Christ Jésus seront persécutés. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la pression de l'extérieur à laquelle l'Église cède. Cette pression qui consiste à ne pas vouloir qu'on dise du mal de nous. La peur de la persécution. Les apôtres, lorsqu'ils ont été persécutés, ils se sont levés et ils sont retournés chez les autres, ils ont dit « prions ». Ils n'ont pas dit « Seigneur, qu'il nous lâche tout, qu'il laisse tranquille. On ne dérange personne. Si tu veux, on ne dit plus rien. Tu te nous protèges, s'il te plaît. » C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Dieu nous vient cette pusillanimité. Non, ils ont dit « Seigneur, donne-nous de la hardiesse. Parce qu'on va recommencer. On va recommencer. Et en plus de ça, étends ta main pour guérir. Manifeste ta puissance. Tu vas les confondre. Nous allons annoncer l'évangile. Ils nous ont mis en prison. Ils nous ont menacés. On va recommencer. Nous allons recommencer. Et nous n'allons pas diluer le message. Parce que quand le message est dilué, il n'existe plus. Que ce soit clair. Où Jésus est Seigneur, ou il n'est pas Seigneur. Dès que vous commencez à dire, oui, mais tu sais, Jésus, non, c'est fini, arrêtez de parler. Vous avez perdu la bataille. Vous gagnez quelqu'un en Jésus qui n'est pas Seigneur, il n'est pas sauvé. Et nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui ne sont pas sauvés. Pendant des années, ils ne sont pas sauvés. Oui, tu sais, Jésus, peut-être pas Jésus. Et j'ai eu des gens venir à base, chrétiens, entre guillemets, depuis de longues années. Qui voulait me dire, mais tu sais, il y a différentes voies à Dieu. Je dis, quoi? Il n'y a pas différentes voies à Dieu. Non. S'il y avait différentes voies à Dieu, Jésus a perdu son temps. Il devait être un peu maso. Et Dieu devait être un peu sadique. D'avoir envoyé son fils sur terre, Dieu se manifestait dans la chair, alors qu'il y avait d'autres voies possibles, des fondamentaux, dites fondamentaux. Des fondamentaux. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et ces fondamentaux doivent être enracinés à l'intérieur de nous. Le savoir, le comprendre, en avoir la révélation et la conviction. Parce que si vous n'en avez pas la conviction, vous allez bientôt cesser de croire. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est pour vous amener dans un autre sens. Et des gens qui sont sympathiques et raisonnables, et vous voulez qu'ils soient vos amis. Parce que parfois, ils sont même plus sympathiques que les frères à l'église. Et surtout, parce que je vais recevoir ma promotion. Donc, quand mon patron me dit, mais vous ne croyez quand même pas que Jésus soit la seule voie au Seigneur, à Dieu. Ah non, 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 pas vraiment, non, 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 mais enfin, tout le monde est libre. Mais voilà, vous êtes quelqu'un de raisonnable. Vous venez de perdre la bataille. Vous venez de vous constituer ami du monde et ennemi de Dieu. Est-ce que c'est clair?
Amen.
Dites fondamentaux.
Fondamentaux.
Aucun autre nom qui a été donné. Et il est temps que l'Église saisisse cela. Et lorsque les gens de l'extérieur disent, oui, mais vous êtes borgné, vous aussi vous êtes borgné. Parce que vous êtes assez borgné pour dire que ce n'est pas Jésus. Qu'est-ce que vous en savez? Chacun veut imposer sa philosophie, sa théorie, son idée. Pourquoi les chrétiens doivent battre en retraite? Si nous avons rencontré le Seigneur de la vie, nous devons avoir le courage de le dire, de l'annoncer, de le déclarer, de le prêcher et le courage de nos convictions.
Amen.
Adultère que vous êtes, demandez à votre voisin, est-ce qu'il parle de toi? C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Et ce mot adultère est très fort, parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les prophètes sortaient souvent ce mot pour désigner le peuple de Dieu qui s'éloignait de Dieu pour servir d'autres idoles. Notre relation avec Dieu, l'Église est l'épouse de Christ. Notre relation avec Dieu, c'est cette relation d'intimité. L'Église est son épouse. Donc lorsque l'Église commence à regarder dans d'autres voies, oui, il y a peut-être un Dieu par là, ou une autre voie, c'est peut-être pas totalement Jésus. Bon, Jésus, c'est bon pour moi, peut-être pas pour les autres. Ce sont les idées que notre société essaye de nous inculquer. Et certains d'entre nous, nous sommes sortis de là. Parce que moi, que vous voyez ici, cette philosophie, je l'ai prêchée. Pas après être converti, mais avant ma conversion. Alléluia. Et les chrétiens qui ont discuté avec moi, certains gardent en souvenir. Et quand il me voit annoncer le bon Dieu, l'Éternel est grand.
Amen.
Alléluia. C'est la force de conviction du Saint-Esprit. Si nous le laissons faire. Il y a des fondamentaux, des choses qui sont non négociables. Et quand vous regardez aujourd'hui, de plus en plus, les gens négocient. Le péché, non négociable. La chute, non négociable. La séparation entre l'homme et Dieu, non négociable. Si l'homme n'est pas séparé de Dieu, Jésus a perdu son temps en venant. L'historicité de la Genèse, non négociable. L'existence d'Adam, non négociable. Si Adam n'a pas existé, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de péché, il n'y a pas de rédemption. Vous avez perdu votre temps en étant à l'église. Allez au club. Allez faire du golf le dimanche matin. Parce que ça n'a pas de sens. Jésus est venu nous racheter parce que l'homme a chuté. Alors nous ne pouvons pas être des chrétiens tellement sophistiqués ou tellement stupides que nous suivons les gens qui ne connaissent pas Dieu pour adopter leur philosophie et leur façon de penser pour éviter d'être persécutés. Il y a une, aujourd'hui dans le monde occidental, c'est qui peut manger autant de chrétiens qui peut. C'est le champ libre dévorant les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens courbent la tête et se laissent faire. Est-ce que vous allez vous laisser faire?
Non,
je ne vous entends pas, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous allez vous laisser faire?
Non.
Et cela vient de la compréhension des fondamentaux. Il y a des choses qui sont non négociables. Ce n'est pas peut-être que, bon, finalement, ils ont dit que... Non, la création non négociable. Je sais qu'on vous enseigne l'évolution à l'école. Vous pouvez écouter d'une oreille distraite, mais dites à l'intérieur de vous, au commencement, Dieu.
Amen.
Je répète, au commencement, Dieu.
Amen.
C'est un orgueil démesuré. Que pour des personnes dire, nous avons assez de science pour prouver que Dieu n'existe pas. Philosophiquement, c'est un non-sens. Et scientifiquement, c'est un non-sens. Parce que la connaissance humaine reste toujours imparfaite. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui en train de guérir des malades dont les gens mouraient il y a 2 ans. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui encore incapable de guérir certaines maladies. La connaissance humaine est imparfaite. Et beaucoup de chrétiens sont en train de renégocier Dieu créateur. Parce que certains scientifiques leur ont dit, oui, on a découvert, vous n'avez pas encore tout découvert.
Amen.
Parce que la connaissance de l'Éternel est infinie. La science de l'Éternel est infinie. Alors découvrez autant que vous voulez, mais vous n'allez jamais tout découvrir et jamais assez découvrir pour prouver que Dieu n'existe pas.
Amen.
La création par Dieu, fondamentale. Et aujourd'hui, les chrétiens se tordent dans tous les sens pour ne pas avoir l'air rétrogradé, arriéré dans leur pensée. C'est parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la philosophie de la pensée humaine, qui est constamment en évolution. La pensée humaine évolue, mais l'être humain n'a pas évolué. Nous avons été créés. Si nous ne sommes pas le fruit de la création de Dieu, nous sommes comme des animaux. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas d'amour particulier entre Dieu et nous. Il n'y a pas de choix de l'homme. Il n'y a pas cette relation entre Dieu et nous. Tout ce qui fonde la foi chrétienne n'existe pas. Alors ne pensez pas que vous allez faire la quadrature du cercle. Fondamentaux. Dites fondamentaux.
Fondamentaux.
La pression de l'extérieur. La pression de l'extérieur. Il y a un athée célèbre qui a dit que leur tactique, c'était de tourner les chrétiens en dérision. De tourner la foi chrétienne en dérision. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps. Je l'ai regardé, je l'ai écouté, mais il ne dit rien de particulièrement sensé. Rien qui puisse ébranler la foi d'un être humain qui réfléchit. Mais il se sert de la dérision. Il se moque de ce qu'il ne comprend pas. Il prend tel passage de l'Ancien Testament qu'il n'a pas compris et il tourne cela en dérision. Les gens sont là. Et je dis, mais ils sont tous bêtes. Il suffit de réfléchir. Mais parce que les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Et Parce que les chrétiens ne vivent pas proches de Dieu. Ils sont facilement intimidés. Facilement intimidés. La pression de l'extérieur. Il y a des fondamentaux. L'enfer fondamental. Une punition éternelle pour les gens qui ne viennent pas à la connaissance de Christ fondamentale. On s'en réjouit? Non. Dieu s'en réjouit? Absolument pas. Si Dieu s'en réjouissait, il ne se serait pas fait cher. Mais ces fondamentaux doivent être réalité à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela que lorsqu'on a mis en place nos cours racines, on n'a pas cherché à vous dire toutes les bonnes choses que vous avez nécessairement envie d'entendre. Maintenant, on a cherché à vous dire la vérité. Les doctrines de base, les fondamentaux. Parce que si ces choses ne sont pas ancrées en vous, vous n'allez pas tenir. Vous allez être vacillant. Au lieu d'amener les gens à la connaissance de Christ, vous allez vous laisser influencer par eux. L'Église dans le monde occidental a été totalement influencée par le monde. Nous avons adopté les systèmes du monde, les attitudes du monde. Nous avons vidé nos cultes de tout contenu spirituel pour que les gens qui ne sont pas à Dieu puissent se sentir à l'aise. Mais comment peuvent-ils se sentir à l'aise? Oui, ils peuvent aimer la louange, mais il y a forcément quelque chose quelque part. Ils vont dire, je ne sais pas. Alléluia. Je t'ai converti quand je suis allé à l'église, parce que je me suis converti à la maison. J'avais tellement prêché, je disais que je ne voulais plus rien entendre, je voulais que Dieu me parle. Et Dieu n'a pas tardé à me parler. Et quand finalement je suis allée à l'église, j'étais convertie, j'étais bien. Mais il y avait quand même des choses qui me gênaient. Tous ces gens qui prient en langue, mais ils excluent les autres. C'était moi, ça c'était ma pensée. Mais ils excluent les gens qui ne parlent pas dans leur langue. Mais c'est exclusif, ils ne devraient pas. J'avais une idée sur la manière dont ils devaient conduire leur culte. C'était la première fois que je venais. Ça c'est l'arrogance de la chair. Et l'arrogance des gens qui ne connaissent pas Dieu est parfois démesurée. Ils savent comment nous devons être. Ils savent comment nous devons parler. Ils savent même ce que nous sommes censés croire. Ils nous disent, mais oui, mais si vous atténuez un peu ça, les gens viendraient. Mais quand on aurait tout atténué, ils viendront à quoi au juste? Ils viendront à quoi au juste? Ils viendront à quoi? L'amitié du monde, c'est l'inimitié avec Dieu. Que ce soit clair. Jésus n'est pas venu pour mourir parce que c'était facultatif. Donc que ce soit Jésus, que ce soit Philippe ou le prophète Adamson, qu'importe, tant qu'on appelle Dieu la force suprême. Mensonge.
Amen.
Mensonge.
Amen.
On appelle la force suprême jusque dans la tombe et dans l'enfer. Et après les yeux sont ouverts. Ah! Et les chrétiens se laissent avoir, se font avoir par ce genre de bêtises ridicules. Des fondamentaux. Parce que les fondamentaux ne sont pas en place à l'intérieur de vous. Et quand on a fait le cours racine, comme vous a dit, des études quotidiennes, pourquoi? Parce qu'il y a un processus de transformation. Et un processus de changement de mentalité. Et ce processus, c'est le fruit d'une application régulière. Et c'est ce qui manque à l'église. Nous aimons nos grandes réunions. Yes, preacher, oh, wow! Et ça danse! Elle tente. Et après on dit, ok. Toutes vos déceptions, prenez dans votre main. Vous avez pris vos déceptions, prenez dans vos mains. Maintenant, jetez derrière vous. C'est fini, ce n'est pas fini. Parce que quand vous allez rentrer à la maison, vous n'allez pas changer votre manière de penser. Le lendemain, c'est la première chose à laquelle vous allez penser. Il y a des gestes prophétiques. Mais pourquoi les gestes prophétiques et leur impact? Il faut un renouvellement de l'intelligence. Et beaucoup de chrétiens ont aussi trop de choses à faire. Vous comprenez, je dois gagner ma vie. Vous êtes en train de perdre votre vie. Jésus a dit, nous vivons de tout ce qui vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas votre nourriture quotidienne. Vous êtes en train de vous faire dévorer. Et le diable ne prend pas de prisonniers. Des fondamentaux. La Trinité. Des fondamentaux. il y a des gens qui seraient d'accord avec nous si on décidait de ne pas dire que Jésus était le Fils de Dieu. Il y a des gens qui nous trouvaient même très sympathiques si on arrêtait de dire que Dieu s'est fait chair. Oh, si Dieu ne s'est pas fait chair, fermez toutes les églises. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et Jésus n'a pu nous sauver que parce qu'il est Dieu qui s'est fait chair. Sinon, il aurait été corrompu, il aurait été pécheur comme nous. La divinité du Christ, fondamentale. La Trinité, fondamentale. L'inspiration de la Bible, fondamentale. Parce que si la Bible n'est pas inspirée, elle vous vient d'où et pourquoi vous basez vos vies sur elle, vous ne pouvez rien croire. Tout ce que nous savons sur Jésus nous vient de sa parole. Soyons sérieux. La pression de l'extérieur à la persécution, parce que vous comprenez, nous vivons dans un monde de diversité. Diversité, c'est le mot qui est à la mode. Diversité. Diversité de point de vue. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Est-ce que vous me suivez? Ils ont le droit. Dans la mesure, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Ils ont le droit de penser que toutes les voies mènent à Dieu. Et j'ai le droit de penser que absolument pas. Il est temps que le chrétien exerce son droit inaliénable à la différence. Dans ses déclarations d'indépendance, Thomas Jefferson parle des droits inaliénables de chaque être humain. Et sachez qu'un des droits inaliénables, pas selon lui, mais selon la parole de Dieu, que vous avez en tant que chrétien, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'il est seul sauveur du monde. C'est votre droit le plus inaliénable. Et ne vous soumettez pas aux polices de la pensée. Qui se permet de vous dire ce que vous avez le droit de croire. Sinon, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. La tolérance est devenue croire ce que nous croyons, sinon vous êtes intolérant. Je parlais avec quelqu'un une fois qui me demandait ce que je pensais du mariage homosexuel. Je lui ai dit. Il me demandait ce que je pensais de l'homosexualité. Je lui ai dit. Il m'a dit, mais c'est étonnant. Parce que tu es quelqu'un de vraiment... Pour quelqu'un, tu étais très tolérant dans ton attitude vis-à-vis des gens, ce qui veut dire simplement que j'aime tout le monde, je suis très sympa avec tout le monde, mais tes idées frisent l'intolérance. Je lui ai expliqué ce qui pour lui était l'intolérance. L'intolérance étant avoir le droit et l'audace de ne pas être d'accord avec vous qui avez décidé ce qui est bon. Et c'est l'intolérance des gens qui se disent tolérants. C'est refuser à d'autres le droit de dire nous ne sommes pas d'accord. Et il est temps que l'église dise nous ne sommes pas d'accord. Et la tolérance veut dire qu'on laisse l'église ne pas être d'accord. Et que les chrétiens affirment le droit à ne pas être d'accord, à vivre selon la vérité biblique et à affirmer la vérité biblique. Nous n'avons pas à négocier nos pensées, ni nos croyances, ni notre foi. Nous n'avons pas à négocier. Et c'est parce que l'église est faible qu'elle est toujours en train de négocier et renégocier et relire la Bible à la lumière de l'évolution de la société que nous avons perdu toute influence dans le monde occidental. Les gens n'ont aucune confiance, les gens n'ont aucun respect pour les gens qui ne sont pas fidèles à leurs convictions. Ils peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais soyez au moins fidèles à votre conviction. Ayez au moins des convictions. Dites fondamentaux. Mais en fait, c'est la question se pose, donc on en parle. Il y a d'autres questions qui se posent, mais ça, on va voir plus tard. Parce que ce sont les fondamentaux, lorsqu'ils sont ancrés en nous, qui déterminent nos choix de vie. Parce que quand je comprends le péché, la rédemption, le sacrifice de Jésus, cela va influer sur mes valeurs. Dites valeurs. Nos valeurs. Nous allons parler des valeurs la semaine prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être chrétien, c'est dire je crois en Jésus et je viens à l'église. Il y a des valeurs. Et ces valeurs, notre adhésion à ces valeurs est la démonstration de la profondeur de la vérité qui nous habite. Notre adhésion à ces valeurs qui vont nous conduire à certains choix de vie et des comportements et des décisions. Et ces choses sont le résultat des fondamentaux qui sont en nous. Quelle est l'image de Christ qui est en vous? Quelle est la révélation de Jésus qui est en vous? La pression de l'extérieur Une génération qui a peur de son ombre, qui a peur de ne pas être aimée, qui a peur de ne pas être appréciée, qui a peur de ne pas recevoir la promotion. Vous avez peur de quoi au juste? Vous avez peur de quoi? Jésus a dit, si m'ont aimé, ils vous aimeront. Donc il y a des gens qui aiment les chrétiens, il y a des gens qui m'aiment beaucoup parce que je suis chrétienne. Il y a des gens qui ne me supportent pas parce que je suis chrétienne. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est normal. On dit en anglais, it goes with the turf. Ça fait partie du territoire. Et ça ne vous pose problème que dans la mesure où vous êtes faible. Et la solution, ce n'est pas de renégocier votre contrat avec Dieu, c'est de laisser Dieu vous fortifier. Parce que la force est là pour ceux qui le veulent. Mais nous n'allons pas vivre nos vies ballottées à droite et à gauche par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il est temps que l'Église commence à savoir ce qu'elle croit. Maintenant, l'enfer est devenu négociable. Il y a même des pasteurs qui écrivent des livres en disant que l'enfer n'existe pas. Parce que vous comprenez, il y a telle personne dans leur église dont la grand-mère est morte sans connaître Dieu. Donc pour la rassurer, nous allons donc dévoyer, fourvoyer la parole de Dieu pour nous rassurer. Qui d'entre nous n'a personne dans sa famille qui est mort sans connaître Dieu? Nous allons donc renégocier la parole de Dieu au lieu de remercier Dieu pour ceux qui sont encore vivants, qui peuvent le connaître. Nous allons les condamner eux aussi à l'enfer en renégociant la parole de Dieu. La question est de savoir si ces choses sont vraies, pas si elles nous arrangent. Et chaque enfant de Dieu doit se poser ces questions. C'est une question de vérité. Ce n'est pas une question de ce qui me permet de mieux vivre, ça me permet de me réveiller le matin. Ah oui, parce que Jésus, quand je prie, il me laisse dormir. Comme je dis toujours ici, Jésus n'est pas un somnifère. Prenez des somnifères pour dormir. Non. Il est question de vérité. Et ça m'habite. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait la grâce que lorsque je suis venue à lui, je suis venue parce que je voulais connaître la vérité. C'est quoi la vérité? J'ai exploré à droite et à gauche. J'ai regardé la rose croix, qu'est-ce qu'ils croient? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils croient? Les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils croient? Même les gourous Maharaj, enfin... Parce que je voulais savoir. Dieu m'a interpellé, il m'a mis à qui dit, si Dieu existe, ce serait bête de ne pas le connaître. J'avais aucune peur de l'enfer, je ne croyais pas que l'enfer existait. Non. Mais j'étais curieuse, quelle est la vérité? Pourquoi baser votre vie sur un mensonge juste parce que ça vous gagne des amis? Mais quels amis? Des amis dans le mensonge? Vous ne vivez qu'une seule fois. L'Église doit se réveiller. Dans chaque génération, l'Église a toujours été tentée de suivre la philosophie mondaine et humaniste de sa génération. Et Dieu merci, dans chaque génération, il s'est trouvé des gens pour dire « Niet !» Niet ! Et si ceux qui nous ont précédés avaient tous capitulé, qui nous aurait prêché l'évangile? Et pourquoi nous sommes si encore capitulés? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Dieu du mal de nous, écrit des mauvais articles, nous critiquer, nous condamner, mettre tout ça sur des blogs, sur Internet, raconter à tout le monde qu'on est des hérétiques, ou pire, non, pas des hérétiques, qu'on est des intégristes. Alors ça, c'est la grande crainte en France. Nous sommes des intégristes. Ah, je vais faire l'église. Aïe, 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 aïe. Des intégristes. Et au travail, quand ils disent, je sais que vous êtes des intégristes. Les gens n'ont pas le droit d'avoir des relations. Mais vous êtes des intégristes. Mais nous, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas dire ces choses-là. Il ne faut pas dire ça. Alors, on n'invite pas ses amis à l'église parce que ces pasteurs commencent à parler de la fornication. Je vais pleurer la paix au travail. Je vais prier que Dieu vous enlève la paix au travail. Si on prie du contenu de l'évangile. Je ne respecte pas ceux qui n'ont pas le courage de leurs convictions. Ça commence toujours avec le mépris. Mais vous autres, là, vous êtes... Mais vous autres, vous êtes... Vous autres, vous êtes... Vous... Et après, c'est... Au fait, tu ne peux pas prier pour moi, parce que ce qui afflige chaque être humain, un jour, va les affliger. La condition humaine, un jour, va les affliger. Et ils auront besoin de savoir s'il y a un Dieu. Que Dieu nous donne la hardiesse pour épouser les fondamentaux. Les fondamentaux. Nous avons besoin de les méditer. Et les reméditer. Et les reméditer encore. Et les étudier. Et nous poser des questions. Et nous mettre devant Dieu. Enseigne-moi, Père. Ouvre mes yeux. Je veux savoir. Je veux connaître. Au lieu de ça, nous prenons un verset par jour. Notre petit fatine coquille. Seigneur, j'aimerais passer. Amen. Alléluia. Et après, je dis, mais je n'ai pas beaucoup de force. Quand les gens parlent, je ne sais pas quoi leur dire. Mais tu ne peux pas savoir quoi leur dire. Il n'y a rien en toi. Mais comment pouvons-nous mourir? Alors que la table est dressée devant nous, les chrétiens devraient être les gens les plus forts, les plus puissants. Ils le sont, potentiellement. Ah oui, potentiellement. Potentiellement. Non négociable. Dites non négociable.
Non négociable.
Non négociable. Il y a des gens qui, des choses qui sont non négociables. Et il y a de ces choses qui nous sont proposées, vous comprenez? Qui ont l'air tellement agréables. Il suffit, le diable a dit, écoute, tous les royaumes du monde, je te les donne. Regarde. Et Jésus a vu, ça devait scintiller de partout. Regarde ici. Maintenant, viens. Regarde. Et nous, on pense que quand le diable vient, c'est pour dire, il y a un méchant. Non, il vient. Oh, avec une voix mielleuse, agréable. Tous ces gens qui font des photos du diable avec des cornes, mais non. Quand il va venir, c'est un beau gosse. Mais alors? mais s'il vient et qu'il a l'air désagréable, n'allez pas le suivre. Quand il vient vous tenter et que vous chutez, c'est parce que c'était pas agréable que vous l'avez suivi? Non. Je ne sais pas qui leur a dit de dessiner le diable comme ça. Il faut dire, mais un beau gosse. Mais alors, attractif. Agréable à voir. À écouter, une voix mielleuse. Tu veux dire à Jésus, regarde. N'est-ce pas beau? Regarde Babylone. Regarde Israël. Donc, regarde par là. Les contrées de l'Europe, mais regarde, et l'Asie, est-ce que c'est pas beau? Regarde l'Afrique, regarde l'Orient, regarde tout ça. Ah, alors, tu veux tout ça? Alors, je te donnerai tout. Tu m'adores simplement. C'est tout. Quelques instants, et toi tout, et c'est bon. Et nous, on aurait fait, ah, ah. Et parce que l'on ne veut pas se sacrifier, parce qu'on ne veut pas se déranger, parce qu'on ne veut pas s'embêter, parce qu'on ne veut pas être persécuté, parce qu'on ne veut pas la voie de la croix, parce qu'on est paresseux, on ne veut rien faire. On dit, on va juste, ok, 2 secondes. Hein. Et c'est 2 secondes, et ce sera fini. Hein. Non, mais voilà, parce que la gloire de Dieu, c'est ce que je veux. Hein. Je veux que toutes ces nations viennent au Seigneur. Donc, on va juste faire ça vite fait, et c'est bon. Hein. Hein? Et vous restez là. À genoux, pour la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à genoux pour la vie, parce qu'ils ont accepté de le faire à sa manière. Et l'Église, dans beaucoup de nos pays, est en train de se prosterner devant le diable pour gagner le monde à Jésus. Nous sommes en train de renégocier les fondamentaux de l'Évangile. Renégocier la divinité de Christ, renégocier la sainteté, renégocier le tout pour que les gens puissent nous trouver bien, qu'ils ne nous persécutent pas. Et comme ça, ouvrez une église ici, ouvrez une église là, ouvrez une église là, et on a l'impression que tout va bien. Et Dieu regarde nos églises et les vomit. Nous avons la pression de l'extérieur et la pression de l'intérieur. La pression de l'intérieur. La parole de Dieu nous dit ceci. Regardez dans 2 Timothée chapitre 4. Dans 2 Timothée chapitre 4. Il y a quelque chose de très, très intéressant ici. Et là, il n'est pas en train de parler vraiment de ceux de l'extérieur, mais ceux de l'intérieur particulièrement. Au verset 1, il dit ceci, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Vous comprenez? Le jugement fondamental. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais bon, je pense qu'après la mort, Dieu va s'arranger d'une façon ou d'une autre avec tout le monde. Ah oui, il y a des pasteurs qui le disent. Dieu va s'arranger de façon ou d'une autre avec tout le monde. C'est, en fait, vous comprenez, Dieu est un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de sainteté. Oui, Dieu va arranger tout ça, qu'importe. Mais non, il n'y a pas de jugement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Je t'en conjure, je te supplie, je te donne l'ordre, je t'implore, j'insiste devant Jésus-Christ, devant le Seigneur lui-même, parce qu'il y aura un jour de jugement pour chaque être humain. Alors écoute-moi bien, voilà ce que tu fais, compte-nous de cela. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, il y a des occasions non favorables. Ah, il y a des occasions non favorables. Parce que les gens ne veulent pas entendre. Ils ont leur idée. Ils ne veulent rien entendre d'autre. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, le mot douceur, c'est le mot patience. Ça n'a pas dit, en fait, c'est pas très bien ce que tu as fait parce que, enfin, si tu me permets quand même de peut-être oser dire hein, quelque chose à ce sujet parce que tu comprends. Et ça, c'est ce que font certains pasteurs parce que les chrétiens les ont tellement terrifiés. Car il viendra en temps. Écoutez bien. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors je vous lis dans un français plus simple. Avec ce sauveur, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien avoir, savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Et pas uniquement avec le doigt. En d'autres termes, que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Et c'est très frappant parce que lorsque Dieu a appelé Isaïe, Isaïe face à la gloire de Dieu, voyant que Dieu voulait envoyer quelqu'un, s'est proposé. Et Dieu lui a donné un mandat, tout en lui faisant comprendre que les gens n'allaient pas l'écouter. C'est quand même fort. Et nous, pour que les gens nous écoutent, décidant de mettre à la poubelle le vrai message. Il nous dit ici qu'il y a un temps où les gens ne voudront pas écouter. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais alors, ils vont s'entourer de maîtres et de docteurs et d'enseignants en tout genre qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qui les arrange. Mais il y a une, je pense que c'est plus vrai de nos jours que cela n'a jamais été. Parce qu'aujourd'hui, les docteurs, il y en a pléthore. De mon temps, quand je grandissais dans la foi, pour avoir des enseignements autres que ceux que l'on avait dans notre église, il fallait aller chercher loin. Maintenant, c'est sur votre téléphone. C'est sur Internet, partout, Facebook, des docteurs, il y en a pléthore. Et maintenant, tout le monde publie un livre, vous allez sur Amazon, tout le monde publie son livre. Vous téléchargez, vous avez un foisonnement d'enseignements en tout genre. Et on peut écouter qui on veut. On peut toujours trouver quelqu'un qui va nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ce qui va vous faire plaisir et qui ne va pas vous mettre au défi. Je disais aux gens qui étaient à la prière hier, j'ai dit devant le Seigneur que j'allais dire à cette église, si vous êtes ici et que pendant une période de 6 mois, je n'ai rien dit de cette estrade et je n'ai rien fait qui vous dérange, je dois vous demander pardon. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un prêcher quelque chose qui vous a embêté. Qui vous a mis au défi? Qui vous a fait Je dois vraiment vous demander pardon. Parce que ça veut dire que je n'ai pas prêché la vérité. Parce que sachez une chose, Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'on était bien. Il nous a sauvés en dépit du fait qu'on n'était pas bien. Et il veut que la prédication de sa parole nous amène à changer.
Amen.
Et le changement commence en acceptant les fondamentaux. Dites fondamentaux.
Fondamentaux.
Fondamentaux. Et parfois, les gens disent, oh, mais je connais. Mais ce que vous vivez est la démonstration de ce que vous connaissez. Les choix que vous faites sont la démonstration de ce qui est vraiment ancré à l'intérieur de nous. Et beaucoup de gens sont à l'église pendant des années et la réalité de Dieu n'est pas ancrée à l'intérieur d'eux. La sainteté de Dieu n'est pas ancrée à l'intérieur d'eux. Nous avons fait une série d'enseignements ici sur la nature de Dieu. La nature de Dieu. Des fondamentaux. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu est à l'encontre de la pensée humaine qui veut que tout soit acceptable, que tout passe. Où est le problème? Je ne dérange personne, je vends de la drogue, je ne dérange personne. Où est le problème? Alléluia. Dites fondamentaux.
Fondamentaux.
Vous regardez avec moi dans le psaume 11. Le psaume 11. Je dis, Seigneur, si les gens qui m'écoutent se laissent manger par le monde, soit en s'éloignant des fondamentaux, soit en faisant des compromis dans leur vie, ce ne sera pas faute de m'avoir entendu. Et je ne serai pas responsable devant Dieu. Ah non! Et dans cette génération où nous vivons, les fondements sont en train d'être ébranlés. Et il est important que les chrétiens le saisissent. On ne peut pas vivre comme si on était sur un bateau de croisière. Non. Parce que sinon, vous allez vous laisser personnellement dévorer et vous n'allez pas servir à grand-chose dans le royaume de Dieu. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Il y a quelque chose d'autre que je vais vous dire avant qu'on passe au verset 11. Pourquoi j'ai lu ce passage sur les gens qui veulent, qui s'entourent, qui ont la démangeaison et donc s'entourent des docteurs, s'entourent des gens qui disent ce qu'ils ont envie d'entendre? Parce qu'il y a une pression à l'intérieur également. Les chrétiens qui n'ont pas laissé Dieu renouveler leur intelligence ont une idée de ce qu'ils veulent entendre. Vous savez que lorsque Jésus est allé dans le temple et qu'il a chassé les marchands du temple, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Il s'insurgeait contre le matérialisme qui avait gagné le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le matérialisme a gagné de nouveau l'église. Et la course aux membres nous amène à nous focaliser sur le matériel. Le jour où ils ont commencé à sortir des statistiques, ils ont annoncé la mort de l'Église en Occident. Dans le monde entier d'ailleurs. Parce que maintenant la course aux statistiques amène les serviteurs de Dieu à prêcher un autre évangile. Un évangile commercial, un évangile de compromis. Est-ce que Dieu veut que nous soyons prospères? Oui. Mais ce n'est pas le but de l'évangile. C'est un produit dérivé. L'apôtre Paul, lorsqu'il a dit, voici l'évangile que je vous ai annoncé. Il n'a pas dit, venez à l'église tous les dimanches et vous allez avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça l'évangile qu'il leur a annoncé. Et la pression et cette démangeaison des chrétiens les amène à s'entourer de faux docteurs qui vont, tout est question de ce que Dieu va faire pour toi et ce que vous êtes censé faire pour Dieu. Et ce que vous êtes censé faire pour Dieu. Il y a un équilibre dans l'évangile. Il y a un équilibre. Et cet équilibre est souvent perdu. Il y a un équilibre. Et les gens vivent dans le péché, on continue à dire Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas le péché. Et quand vous allez voler de l'argent au travail, et que vous allez amener votre dîme à l'église, on va bénir cela? Non! On va le célébrer? Non! Même si vous promettez d'acheter une belle voiture au pasteur. Dieu vous a précédé. La parole de Dieu nous dit que la piété n'est pas une source de gain. La piété n'est pas une source de gain. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pour le gain. Qui vont à l'église parce qu'ils veulent que le pasteur prie pour qu'ils aient beaucoup d'argent. Donc les pasteurs, pour qu'ils continuent à venir, vont leur parler tout le temps de l'argent. Au point où maintenant on rencontre des gens qui ne connaissent pas Dieu, et la première chose qu'ils disent concernant les églises, c'est l'argent. God have mercy. Nous allons parler des valeurs la semaine prochaine. Parce que quand ces fondamentaux sont ancrés en nous, il y a quelque chose qui change dans notre manière de fonctionner. Et tous ces scandales qui décrédibilisent l'Église, qui décrédibilisent le ministère, tous ces scandales d'immoralité, d'absence d'éthique dans la vie de tous les jours, la fin justifiant les moyens, toutes ces choses qui font que notre témoignage n'est pas propre, sont le résultat de l'absence de compréhension des fondamentaux. On ne peut pas contempler Jésus et ne pas vouloir tout donner à Jésus. Et quand les gens ont saisi à quel point ces choses sont glorieuses, leur valeur change, ce qui est important à leurs yeux change, ce à quoi ils consacrent leur temps change, ce à quoi ils consacrent leur vie change. Si vous avez du mal à suivre Jésus, vous n'avez pas encore compris qui est Jésus. Et si vous n'avez pas encore compris, vous ne pouvez pas amener les gens à le comprendre. Et parce qu'il y a tellement de gens qui vont à l'église qui n'ont toujours pas compris qui est Jésus, ceux qui nous regardent de l'extérieur ont décidé que Jésus, finalement, ça ne vaut pas la peine. Les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Dieu, mais pas comme nous, souvent, nous le pensons. La pression de l'extérieur, la pression de l'intérieur. Mais alors que faire? Très rapidement, le psaume 11, au verset 3, il y a quelque chose de très intéressant ici. Je vais commencer au verset 11, au verset 1. C'est en psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Alors, il y a des gens qui disent, ah, il faut fuir, il faut fuir. Car voici les méchants bondent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde. Ils sont en train de lui dire, mais écoute, il faut laisser tomber parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a une image pour nous aujourd'hui, l'Église. Verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans une situation où les fondements sont en train d'être ébranlés et renversés. Et la question qu'ils ont posée en disant il faut abandonner, il faut capituler, qu'est-ce que le juste pourrait faire? Lorsqu'aujourd'hui l'Église accepte de tout renégocier, lorsque les serviteurs de Dieu commencent à remettre en question la parole de Dieu, Dieu au commencement, Dieu, ça devient sujet à discussion. La divinité du Christ, ça devient sujet à discussion. L'exclusivité de Jésus, ça devient sujet à discussion. Que faut-il faire? Il faut les suivre. Il y a un serviteur de Dieu. Non, oh pasteur, je ne m'appelle pas un serviteur de Dieu. Nous ne servons pas le même Dieu. Qui a dit texto, ou qui a écrit un livre, qui a amené beaucoup de gens dans la confusion. Et qui a dit, oui, si vous ne pouvez pas les battre, il faut vous joindre à eux. En d'autres mondes, c'est une expression en anglais, if you can't beat them, join them. Si vous ne pouvez pas battre les choses, il a dit, nous avions commencé en pensant que nous allions gagner notre génération. Mais finalement, on s'est rendu compte que les choses ne se passent pas comme ça. Donc, si vous ne pouvez pas les battre, il vaut mieux se joindre à eux. Comprenez pourquoi je dis que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Esaïe aurait pu dire cela. Parce que Dieu lui-même lui a dit, ils ne vont pas t'écouter. Et il a prêché, ils n'ont pas écouté. Il a prêché, ils n'ont pas écouté. Il n'a pas dit, ben écoute, on laisse tomber, on fait comme eux. Hein. On fait comme eux. Hein. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Parce que ce que eux veulent est plus important que ce que Dieu veut. Nous allons faire comme eux, disait-il. J'ai lu ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Où est la hardiesse des apôtres? Où est la force et la puissance du Saint-Esprit? Où est cette compréhension que Dieu est capable de tout faire quand il trouve un peuple qui ne lâche pas? Et que de toute façon, il y a une question de vérité. De quoi sommes-nous convaincus? Nous venons à Jésus parce que ça nous arrange? Nous sommes chrétiens parce que ça nous arrange? Ou parce que c'est vrai? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes convaincus que c'est vrai? Les fondamentaux. Est-ce que vous êtes convaincus qu'ils sont vrais? Si vous êtes convaincus, changez votre manière de vivre. Comment cela? Si nous ne pouvons pas aller les battre, nous allons faire comme eux? Nous allons renoncer à la divinité du Christ pour que le monde nous apprécie? Nous allons renoncer à la sainteté pour que le monde nous apprécie? Nous allons renoncer à vivre une vie éthique pour que le monde nous apprécie? Nous allons renoncer à la Trinité pour que le monde nous apprécie? Nous allons renoncer à dire il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour que le monde nous apprécie? L'amitié du monde est l'inimitié avec Dieu. Non, nous allons demander, Seigneur, donne-nous de la hardiesse. Donne-nous enfin des reins. Comprenez tous ces gens qui m'annonçaient l'évangile, que j'étais en train de condamner et critiquer. Ils ne sont là jamais laissés faire. Tac, tac, moi j'étais... Je trouvais que leurs arguments n'étaient pas convaincants. Et c'est une des choses pour lesquelles, lorsque je me suis convertie, j'ai décidé d'aller à fond. Je veux connaître ce Dieu. Je veux connaître ce Jésus. Parce qu'il faut que je puisse donner une raison, comme dit l'apôtre Paul, pour l'espérance que j'ai. Si quelqu'un n'est pas converti, ce ne sera pas parce que ma vie n'a pas été à la hauteur. Et que je n'ai pas su leur expliquer. Ou que moi, qui se dis que je suis chrétien, j'ai fait les mêmes choix qu'eux. J'ai vécu comme eux. Ça ne doit pas être de ma faute. Ça va être parce que eux n'ont pas voulu entendre. Mais si l'Église prêche un autre évangile, comment les gens seront-ils convertis? Et ils seront convertis à quoi et à qui? Allez, ici, si les fondements sont ébranlés, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est la question qui se pose. Qu'est-ce que le juste fera? Et c'est très intéressant parce que David répond, l'Éternel est dans son saint temple. Est-ce que vous le savez? L'Éternel est dans son saint temple. Il n'a pas changé. Il n'a pas été renversé. Il n'y a pas eu de coup d'État au royaume des cieux. L'homme peut décider qu'il ne croit pas, que Jésus n'est pas Seigneur, que ceci, que cela, ça ne change strictement rien. Dieu est, sera éternellement. Et comme on dit, il n'y a pas d'incrédule après la mort. C'est important pour nous de le saisir. Il ne change pas. L'incrédulité du monde ne change pas l'existence de Dieu. David, Dieu est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui allons apprendre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous connaissez la vérité? Qu'est-ce que le juste fera? Le juste mettra sa confiance en l'Éternel. Et le juste apprendra à connaître la vérité, à connaître la parole de Dieu. Jésus a chacune de ses tentations, quelle que soit la voie par laquelle le diable vient, par la voie de vos besoins, soi-disant naturels, par la voie des choses que vous attendez de l'Éternel, par la voie du mari pour lequel vous priez. Alléluia. Par la voie de la brune que certains attendent. Quel que soit le besoin, Et que ce soit le besoin du ministère, nous voulons gagner notre génération. Nous voulons que les gens viennent à Jésus. On les invite à l'église, ils ne viennent pas. On va se dire, nous n'allons pas changer le message.
Amen.
Non négociable. Parce que la puissance est dans la parole de Dieu, pas dans le compromis. Si Jésus a pu vous sauver, il peut sauver tous ceux aujourd'hui qui sont contre lui. Il y a peut-être quelques rares individus ici qui peuvent dire qu'ils sont nés nouveaux dans le ventre de leur mère, peut-être Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas votre cas. Alléluia. Qu'est-ce que le juste fera? Le juste apprendra la parole de Dieu. Le juste apprendra à comprendre ce qu'il dit croire. Alléluia. Le juste se plongera dans la parole de Dieu jusqu'à ce que ça devienne partie intégrante de son être. Et que ça change ses valeurs. Remercions le Seigneur. Je vous demandais d'élever la voix et de commencer à prier. De parler avec Dieu de ce que vous avez entendu et de ce que cela a fait dans votre vie. Si vous êtes nouveau dans votre marche avec Dieu, c'est le moment pour vous de dire, Seigneur, je choisis d'adhérer aux fondamentaux. Je choisis que ma vie chrétienne sera une vie radicalement donnée à Dieu. Je ne peux être assis entre deux chaises. Chrétien à l'église, on ne sait pas trop à l'extérieur. Alléluia. Et si vous êtes au milieu de votre marche chrétienne, faites la même prière. Alléluia. C'est à prier pour la révélation. Que ces fondamentaux de l'évangile deviennent une évidence pour vous. Une évidence. Et Martin Luther King, dans son fameux discours sur son rêve, il a repris cette phrase de la Déclaration d'indépendance. Il a dit qu'il avait un rêve d'en voir un jour où cette parole devienne réalité. Que ces vérités deviennent une évidence. Et mon rêve, c'est de voir dans l'Église que ces vérités fondamentales deviennent une évidence pour chaque chrétien. Et que les chrétiens aient l'audace de leur foi et le courage de leur conviction et une assurance pleine et entière dans la vérité de ce qu'ils ont cru. Et que non seulement cette vérité soit manifestée dans leur manière de vivre, qu'ils soient prêts à se sacrifier pour ceux qui croient et qu'ils soient prêts à sacrifier le confort quotidien pour ceux qui croient. Nous avons un évangile selon lequel c'est quand Dieu te donne tout ce que tu veux que tu es béni. Non, c'est quand Dieu prend ta vie et il en fait ce qu'il veut que tu es béni.
Amen.
Nous avons un évangile selon lequel on ne se refuse plus rien. Si Dieu ne nous donne pas, on le fait à notre manière. Si je n'ai pas la promotion que je vais aller mentir au travail. Comme ça, je vais obtenir quelque chose. Je vais tricher un petit peu et je vais dire gloire à Dieu. Je prends des raccourcis. Si Dieu ne le fait pas, je fais à ma manière. Et non, ce n'est pas parce que Dieu nous donne tout ce que nous voulons. C'est parce que Dieu fait de nous tout ce qu'il veut. Et c'est quand la vérité de l'évangile est ancrée en nous, que nous sommes en mesure de faire, Seigneur, prends ma vie. Fais-en ce que tu veux. Et quand Dieu fait ce qu'il veut de votre vie, là vous vivez réellement. Je me demandais comment, vous savez, dans les générations passées, ils ont compris ce que c'était le sacrifice. Là, le sacrifice n'est plus sacrifice lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, parce que la gloire de Dieu nous remplit tellement, on y prend plaisir. C'est juste le premier pas qui est difficile. Mais ce premier pas est facilité par la révélation. Je m'étais demandé, mais Seigneur, comment les gens font? Il y avait des gens qui quittaient leur pays. Avant l'internet, vous comprenez, avant le voyage en avion, les gens partaient par bateau pour aller en Chine pour annoncer l'évangile. Les gens partaient par bateau pour aller en Corée pour aller annoncer l'évangile. Et ils passaient leur vie. Et nous, on ne peut pas aller à l'église le dimanche parce que c'est loin. Est-ce que vous croyez vraiment l'évangile? Quelle vérité vous avez épousée? Je veux me marier, si Dieu ne fait pas vite, je vais faire à ma manière. Parce que après, tu dois me bénir. Non, non, non. Dieu vous a déjà béni. vous a déjà donné son fils. Quand la vérité de Jésus est ancrée en nous, on ne va pas aller en dehors de Jésus pour obtenir quoi que ce soit. Il nous a donné son fils. Et on se permet de nous dire qu'il ne nous a pas donné ce que l'on veut. Vous voulez quoi? Jésus n'est pas suffisant. Jésus n'est pas suffisant. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui vaut la peine? Mettre en péril mon âme pour obtenir quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Vous voulez quoi? Qu'il soit supérieur au Fils de Dieu. Il y a des années de cela, une amie me disait, ah non, fais pas de compromis, s'il te plaît, ben là, fais pas de compromis. Je lui dis, c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien que je vais pas faire de compromis. C'est pas parce que Jésus m'a, je peux pas. Quand vous voyez Jésus, vous êtes, vous pesez tout contre Jésus, ça fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Mais quand Jésus n'est pas réel en vous, ah, tout est meilleur que lui. Tout est meilleur que lui. Oh, il a les fossettes. Ah, c'est meilleur que Jésus. Je vais le suivre. Oh, la sœur. Ah, c'est pas une sœur, c'est pas grave, mais oui, elle est belle. Je vais la suivre. C'est meilleur que Jésus. Les fondamentaux. Dites les fondamentaux. Quand Jésus est réel, est meilleur que tout le reste à l'intérieur de moi, ça change tout. Nous avons une génération à l'église aujourd'hui qui change Jésus. Et mon ami qui ne le connaissent pas du tout. Quel ami? La pression à l'intérieur. Caressez-les dans le sens du poil. Dites-leur tout ce qu'ils veulent entendre. Comme ça, ils reviennent la semaine prochaine. Ils ne vont pas s'en aller dans une autre église. Ils vont amener leur argent. Oh mon Dieu. Quand il y en a un qui est venu, qui voulait acheter les dons de Dieu avec l'argent, qu'est-ce qui lui a été dit? Que ton argent périsse avec toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils donnent à Dieu et Dieu regarde leur offrande et il la vomit. Non! Jésus est plus merveilleux que tout ça. Jésus est vraiment plus merveilleux que tout ça. Jésus est vraiment plus merveilleux que tout ça. Dieu s'est fait chair. Si ça ne résonne pas en vous, mettez-vous en jeûne, en prière, dans la parole du Seigneur, révèle-toi à moi. Malheur à moi, si j'ai Jésus et je cherche autre chose en dehors de Jésus. C'est que je suis sourd et je suis aveugle et je suis comme ceux dont Dieu a parlé à Jérémie. Ils verront pas, ils sont aveugles, ils n'entendront pas, ils sont sourds. Alors délivre-moi de la cécité. Délivre-moi délivre-moi de la surdité. Parce que je veux que Jésus soit merveilleux à mes yeux. Et quand Jésus est merveilleux à vos yeux, Jésus vous suffit. Et tout ce qu'il a pour votre vie vous vient. Il y a même pas de... C'est pour ça que Jésus a dit chercher premièrement le royaume. Et ça, on va voir la semaine prochaine. C'est ce qui est merveilleux avec Jésus. Il ne vous dit même pas, bon, écoute, tu me sers maintenant, tu meurs de faim. Non! 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 Nous allons voir la semaine prochaine. Vous pouvez déjà lire dans Deutéronome 8, je crois bien, oui. Jésus a cité, lorsqu'il répondait au diable, il a cité un passage dans Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un contexte dans lequel cette parole a été donnée. Et nous allons voir ce qui suit. Parce que si les fondamentaux ne sont pas ancrés en vous, vous allez continuer à faire le tour de la même montagne, à manger par terre dans les poubelles, alors que Dieu a dressé une table devant vous. Et chaque sollicitation pour sortir de la volonté de Dieu, vous allez suivre parce que vous ne connaissez pas Dieu. God is good. God is good. Mais la joie qui est en Christ n'est pas la joie qui est provoquée par un chant rapide. Parce que maintenant, la pression de l'intérieur, allez, égaye-moi, égaye-moi. Non, non, mais plein, papa, pipa, ya, et tout est dans la chair. Il n'y a pas la joie de l'esprit, tout est excité. La boîte de nuit chrétienne, le dimanche matin, la pression de l'intérieur. Jésus est plus merveilleux que tout ça. Vraiment, le cri de mon cœur, c'est que dans cette église, nous connaissions Jésus. Nous connaissions Jésus. Nous connaissions Jésus. Dieu n'a pas fait une erreur en envoyant son fils. Il n'a pas fait le travail à moitié. Et trop de chrétiens vivent comme Dieu avait fait le travail à moitié. Il n'a pas tout donné encore. Je dois aller chercher ailleurs. Il a tout donné. Il nous a tout donné. Tout ce qui convient à la vie et à la piété, il nous a donné. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas comprendre et je ne peux pas être d'accord avec qui que ce soit quand il va faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais pasteur, tu comprends, ça fait des années que j'attends. Et il est gentil. Et alors? Si tu attends toute ta vie, qu'est-ce que ça change? Jésus ne mérite pas ça? Quand on contemple la grandeur du Fils de Dieu, et nous avons besoin de le contempler. Vous avez besoin de le contempler. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous tentent, qui vous attirent, qui vous font titi. Et vous dites, je ne regarde pas chez chrétienne. Alléluia. Oh, c'est peut-être le Seigneur qui le fait. Oh, tu connais Jésus? C'est pas grave, tu pourras venir à lui après. Tu m'aimes? Non, mais moi, je vais à l'église, quoi, de temps en temps. Tu vas venir avec moi? Pas tout de suite, ouais, c'est pas grave. Un jour? Alors, on va où? D'accord. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous savez, il n'y a rien que Dieu peut vous demander qui serait trop. Trop, rien. 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 Oui, mais parce que moi, j'ai attendu, après j'ai décidé que... Tu as décidé quoi? Ta vie, c'est toi qui te l'as donnée? Parce que vous comprenez, moi et Dieu, nous avons un accord. Je ne vais pas gaspiller ma vie et mon temps à prêcher à des gens qui ne veulent pas suivre Jésus. Qui veulent suivre leurs pensées, leur vie, leurs idées, aller dans une autre église. Il y a des gens, votre présence leur suffit. Moi, c'est votre sainteté que je veux. Votre présence ne me suffit pas. Ça me fait mal au cœur. De vous voir, année après année, ça ne bouge pas. Ça me fait mal au cœur. Alors, donnez-moi un peu de répit. Non. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons saints. Que nous soyons saints. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bon. La parole de Dieu nous goûter de voir comme il est éternel et bon. C'est pas un mensonge. C'est pas de la publicité mensongère. Amen. C'est la vérité. Et si vous ne le savez pas, de grâce, rentrez chez vous et dites, Seigneur, j'en ai ma vie. Ça suffit. Mais ça suffit. Ça suffit. Je parlais avec mon fils l'autre jour. Je lui ai dit d'aller prier. Je lui ai dit, mais tu ne vas pas le faire à l'antillaise, tu vas le faire à l'africaine. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous savez, même si nous avons les mêmes origines, les antillais sont plus cool. Les africains, parfois, ils vont un peu trop fort. Calmez-vous. Mais il y a des choses où il faut y aller un peu trop fort. Et c'est par rapport à vous, ce qu'il y a en vous. Vous voulez devenir quoi en Jésus? Que ça vous prenne les tripes? Parce que si ça ne vous prend pas les tripes, c'est le monde qui va vous prendre les tripes. On ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas être mi-chèvre, mi-raisin. On ne peut pas être j'aime Jésus, mais après je vais faire comme je veux. Non, j'aime Jésus, je vais faire comme il veut. Et c'est mon Dieu qui m'en tue. C'est lui qui m'a donné la vie. Est-ce que c'est clair? Si vous ne donnez pas la brune, ce n'est pas grave. Alléluia. Est-ce que parfois, nous, avec Dieu, c'est Jésus, encore des cadeaux. J'essaie en train de penser à ça hier, j'ai dit, more toys, Jesus, more toys, or else. Un jour, on a écrit un article là-dessus. More toys, or else. Plus de cadeaux, plus de jouets. Donne-moi encore un jouet, sinon, plus de jouets, sinon... Encore un jouet, sinon, encore un jouet, sinon, chaque mois, il faut un jouet nouveau, sinon, je vais devenir, hein, je vais regarder ailleurs, hein, j'attends mon jouet, hein, parce que si je l'ai pas, hein, tu sais, hein, Pierre me l'a promis, hein, parce que, hein, mon jouet, Seigneur! Oh, God, change our hearts! Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, change nos cœurs, change nos cœurs, change nos cœurs, les fondamentaux. Pour ne pas gagner une génération à laquelle nous ressemblons. Non. Non. Et quand nous allons découvrir cet amour radical pour Jésus, nous allons découvrir ce que c'est le bonheur. Le bonheur qui n'est pas influencé par les circonstances de la vie, en rien du tout. Alléluia. Il y a des gens qui disent, quand je vais être marié, je vais être heureux. Allez parler aux femmes mariées. Une fois, je conseillais une amie qui avait des difficultés avec dans son mariage, qu'elle ne divorce pas. Mais il s'est énervé contre moi. Eh, oui, c'est ça, que moi je reste. Et toi, t'es pas bien comme tu es. Les autres sont toujours meilleurs que nous. Mais ce que Dieu a fait dans votre vie doit être votre joie. Ce que Dieu a mis dans votre vie doit être votre joie. Ce que Dieu va faire de votre vie doit être votre joie. Laissez Dieu faire les fondamentaux. Nous prenons le temps d'étudier la parole. Nous prenons le temps de méditer la parole. Nous prenons le temps de lire la parole. Nous prenons le temps de nous laisser convaincre de la vérité de l'évangile, des fondamentaux de l'évangile. Parce que si ces choses ne sont pas pleinement ancrées en vous, vous allez être intimidé par le monde et vous allez faire des choix qui ne correspondent pas à Dieu. Mais ce n'est pas votre cas, Abba House. Ce n'est pas notre cas, Abba House. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Je crois et je déclare sur toi que tu marcheras avec Dieu tous les jours de ta vie. Et je déclare sur toi la révélation des fondamentaux de l'évangile. Et je prie, Père, pour mon frère et pour ma sœur, la révélation des fondamentaux de l'évangile. Que ces choses soient ancrées en lui. Non négociable. Qui soit convaincu. Pleinement convaincu. Des choses de Dieu. Et donne-lui de la hardiesse. En fond des reins. Pour faire face à toute opposition. À l'évangile. Et que sa vie reflète la gloire de Dieu. Et à travers lui, Père, je te demande d'amener une multitude à la connaissance de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ce temps que nous avons passé ensemble avec toi. Merci pour la grâce que nous avons à Abba House de te connaître. De connaître ta parole, d'entendre ta parole, d'être conduit par ton esprit. Père, nous sommes plus que bénis. Il n'y a pas de mots pour le dire. Nous te disons merci. Merci Seigneur.
Amen.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Abba House te dit merci Père.
Merci Père.
Merci Jésus.
Merci Jésus.
Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Dites à votre voisin, voisin.
Voisin,
va dans cette force que tu as.
Va dans cette force que tu as.
N'oublie pas les fondamentaux.
N'oublie pas les fondamentaux.
Christ Jésus.
Christ Jésus.
Seul sauveur du monde.
Seul sauveur du monde.
Que tu aies la hardiesse.
Que tu aies la hardiesse.
La force.
La force.
Dans ta génération.
Dans ta génération.
Vis dans la vérité.
Vis dans la vérité.
Éloigne-toi du compromis.
Éloigne-toi du compromis.
Et déclare la parole de Dieu.
Et déclare la parole de
avec
Dieu.
Audace.
Avec audace.
Avec foi.
Avec foi.
Dieu t'aime.
Dieu t'aime.
Et moi aussi.
Et moi aussi.
Amen.